présenter les armes. Ouvrez le banc.
Le 11 juin 1950, René Pleven, ministre de la Défense nationale, s'apprête à décorer l'école de Saint-Cyr de la Croix de guerre 39-45.
L'école spéciale militaire de Saint-Cyr a donné à la France une pléiade de grands chefs qui ont su conduire la nation à la victoire, ainsi hautement mérité la reconnaissance du pays.
On imagine que René Pleven, gaulliste de la première heure, a sans doute eu ce jour-là une pensée particulière pour l'officier saint-cyrien que fut Leclerc.
Écoutez le général Leclerc.
La France de Gaulle, celle qui a refusé de cesser le feu, retrouve la France de l'intérieur, celle qui a refusé de courber le front.
Quand Philippe de Hauteclocque choisit d'intégrer Saint-Cyr en 1922, il choisit d'entrer dans un univers clos.
À genoux les hommes !
Coupé de la société française.
Debout, les officiers !
D'autant plus qu'à l'époque, intégrer l'armée, c'est aussi renoncer à voter, puisque les militaires n'ont obtenu ce droit qu'en 1945.
À mon commandement !
Enfin, devenir Saint-Cyrien, c'est apprendre à la fois à commander,
l'arme sur l'épaule,
mais aussi et surtout à obéir aux ordres et à respecter les hiérarchies. Seulement voilà, au printemps 1940, à l'épreuve de la débâcle face aux troupes allemandes, les certitudes saint-cyriennes de Leclerc ont vacillé. Certains civils ont fait preuve de plus de bravoure que la grande majorité des officiers. Et le salut de la France est venu de la désobéissance.
Je voudrais servir la France, par n'importe quel moyen.
Donc, dans ce deuxième épisode, vous allez comprendre comment le capitaine Philippe de Hauteclocque en est venu à renier certains des principes saint-cyriens au nom de l'honneur.
Philippe de Hauteclocque n'est plus. Le général Leclerc est entré dans la légende.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez La cavale du général Leclerc. Deuxième épisode, l'esprit de Saint-Cyr.
Quel homme était-il ?
Leclerc, c'était le héros, c'était le type pur.
C'était l'efficacité, c'était la loyauté et c'était la rapidité.
Quel homme était-il ?
C'était un homme intérieur, c'était un homme spirituel aussi, je crois.
Pour Leclerc, il suffit !
Ouais ! Adoré de ses hommes à l'égal d'un souverain ou d'un prophète, il avait inspiré l'esprit qui l'animait à toute sa division.
Juif, chrétien, musulman, héritier de la vieille France aristocratique et paysans arabes, ouvriers de la banlieue parisienne, évadés d'Alsace.
Et à Berlin.
Cette épopée de Leclerc, cette épopée de la France libre, chantera toujours sur des syllabes claires et sur des accents de triomphe qui sont ceux du nom de Leclerc de Hauteclocque.
Le récit débute en octobre 1922. Après 2 années en classe préparatoire au collège Sainte-Geneviève de Versailles, Philippe de Hauteclocque, 20 ans, est reçu 5e au concours d'entrée à l'école de Saint-Cyr. Et en octobre 1922, donc, le jeune homme intègre sa formation d'officier.
Saint-Cyrien de première année, depuis quelques heures, j'aide dans cette école. Vous ont attiré vos aspirations, votre besoin d'action et votre ardeur à servir. Servir, le plus noble mot du langage militaire.
Déjà, ce qu'on appelle Saint-Cyr, c'est l'école spéciale militaire. Donc ça, c'est le nom officiel. Elle est surnommée Saint-Cyr en raison de son emplacement, donc situé à Saint-Cyr-l'École, donc dans la commune des Yvelines, à côté de Paris.
Morgane Barret, historienne et capitaine de l'armée française, enseigne à Saint-Cyr.
Et cette école spéciale militaire, elle a été créée en 1802 par Napoléon. C'est donc une école ancienne. C'est une école qui a déjà 100 ans au moment où naît Philippe de Hauteclocque. Et cette école, elle a pour mission d'assurer la formation initiale des officiers de l'armée de terre. Cette école, donc, en 1922, au moment où rentre Philippe de Hauteclocque, elle forme les officiers pour l'infanterie coloniale ou l'infanterie métropolitaine, la cavalerie et, nouveauté après la Première Guerre mondiale, l'aéronautique.
Lettre de Philippe de Haute-Cloque à sa sœur Colette, 1923. La journée où je me suis le plus amusé à Saint-Cyr est lorsque nous nous sommes battus avec les bisous de Polytechnique. Comme nous étions entre 120 et 130, tu comprends que cela a fait une jolie bataille.
C'est la vie de château, pourvu que c'est dur.
Ah oui.
Malheureusement, il y a quelques-uns de mes camarades sérieusement amochés. Tu devines que j'ai cogné aussi fort que j'ai pu.
L'objectif premier de cette école spéciale militaire, eh bien, c'est de former les hommes à commander.
Garde à vous. Non. Garde à vous n'est pas une invitation, c'est un ordre. Ça ne se susurre pas, ça se gueule.
Et cette formation au commandement, alors, elle ne fait pas l'objet d'un enseignement en tant que tel.
Garde à vous.
Elle passe par tout un ensemble de valeurs qui sont transmises par l'école. L'obéissance, la discipline, une initiative fortement limitée, voire bridée. Et tout cela vient finalement former le Saint-Cyrien, le futur officier de l'armée de terre.
Au début des années 1920, ces jeunes élèves officiers, comme Philippe de Haute-Cloque, portent un uniforme militaire bleu horizon, surmonté d'un couvre-chef qu'on appelle un casoar, surnommé le caso.
Vous allez avoir l'honneur d'arborer le caso. C'est un panache, semblable à ceux que portaient autrefois les chevaliers à leur cimier.
Et si ses plumes sont blanches et rouges, c'est que tombées des ailes de la gloire, certaines furent relevées dans le sang.
L'école spéciale militaire, dans son fonctionnement, a aussi pour objectif d'inculquer à ses élèves ce qu'on appelle un esprit saint-cyrien. Donc, c'est-à-dire un mélange, un savant mélange entre panache, gloire, esprit de sacrifice, goût de l'aventure, héroïsme. Et voilà. Et tout cela, en fait, vient aussi participer à une certaine émulation au sein de Saint-Cyr et aussi à une certaine image que les Saint-Cyriens se font de l'officier qui doit être pétri de toutes ses valeurs, de toutes ses vertus et qui, donc, accompagne les élèves à Saint-Cyr, bien évidemment, mais aussi tout au long de leur carrière.
Lorsque Philippe de Haute-Cloque intègre Saint-Cyr à l'automne 1922, l'armistice du 11 novembre 1918 est encore frais dans les mémoires. Alors, quel a été l'impact de la Première Guerre mondiale au sein de cette école spéciale militaire ?
Saint-Cyr, les Saint-Cyriens ont donné à peu près 5000 morts. Tout confondu, hein, du simple lieutenant jusqu'au général, on a 5000 Saint-Cyriens qui sont morts pour la France durant le premier conflit mondial sur 30 000 officiers qui sont tombés pendant les combats. Donc c'est à peu près 13% des officiers. Et ces pertes extrêmement importantes, eh bien, elles vont trouver dans l'école spéciale militaire un écho particulier, puisqu'en fait il va y avoir en 1921 érigé dans l'école un monument aux morts Saint-Cyriens de la Première Guerre mondiale. Et donc, quand Philippe de Haute-Cloque arrive, eh bien, il vit en fait dans ce culte aux morts singulier de la Première Guerre mondiale.
À genoux, les hommes ! Mon général, quel nom donnerons-nous à cette promotion ?
La promotion 1922 à Saint-Cyr, celle du futur général Leclerc, s'est choisie comme nom de baptême Metz et Strasbourg. Un symbole fort, en écho à l'Alsace et à la Moselle. Les deux régions pour lesquelles la France est entrée en guerre en 1914, les deux régions, enfin de retour dans le giron national. Et au milieu des 357 cirards de cette promotion Metz et Strasbourg, quel type d'élève était Philippe de Haute-Cloque ?
Commentaire d'un professeur sur un bulletin scolaire de Philippe de Haute-Cloque en 1922. Je suis un peu fatiguée des élèves brillants. Parlez-moi d'un caractère, parlez-moi de Haute-Cloque. Intelligent, il l'est certainement, mais il est aussi beaucoup mieux que ça.
Par ailleurs, à quoi ressemble cette vie d'étudiant militaire pour le jeune Hauteclocq.
Alors déjà, il faut noter que les comparaisons entre Saint-Cyr et la réclusion religieuse sont assez fréquentes dans les mémoires des anciens élèves ou même dans la façon qu'on a de décrire le fonctionnement de l'école spéciale militaire.
Morgane Barret.
Et ce qu'il faut noter, c'est que l'austérité est véritablement caractéristique du fonctionnement de l'école spéciale militaire. Et cette austérité, elle se double d'ailleurs d'un isolement. Un isolement physique. L'école spéciale militaire est située donc à Saint-Cyr-l'École, donc en dehors de Paris. Les contacts avec Paris sont extrêmement limités. Et c'est aussi un isolement où les élèves sont véritablement coupés du reste du monde. C'est-à-dire qu'ils vivent dans l'école spéciale militaire. Les élèves vivent entre eux, en permanence. Que ce soit pour les cours, les repas sont pris en commun. Les élèves ne dorment pas en chambre individuelle, mais sont en chambrée. Ils vivent tout le temps, 24 heures sur 24, ensemble. Le seul moment où ils peuvent sortir de l'établissement, c'est le dimanche après-midi. Après la messe, après le déjeuner, il faut qu'ils soient rentrés en fin d'après-midi. Et cette sortie, elle se fait en grande tenue. C'est-à-dire que les élèves revêtent leur uniforme, leurs gants blancs, leurs sabres. Et donc, on a aussi ici déjà une séparation physique avec le reste de la société française, où d'ailleurs, on va aussi gentiment se moquer du civil, hein, qu'on qualifie dans l'armée de Pékin. Voilà, ça donne lieu aussi à un certain nombre de traditions où il est de bon ton de se moquer du civil qui mènerait une vie douce.
Encore en retard ? On se croyait retenu à déjeuner chez le général, créez le moine. Même à la soupe, il arrive en retard.
Taisez-vous, j'apporte des nouvelles. Hein ? Samedi, sortie galette pour les deux bataillons.
Être élève à Saint-Cyr, c'est aussi une vie scandée par les contraintes et par un emploi du temps minuté, dans un but bien précis.
Tout va être fait pour que les élèves n'aient finalement que très peu de temps. Très peu de temps pour pouvoir contester, ça c'est évident, contester le fonctionnement, mais ce qui est aussi reproché, c'est très peu de temps aussi pour que les élèves puissent réfléchir. Et ça, nombreux sont les élèves qui sont frustrés en fait, de ne pas pouvoir avoir le temps de véritablement construire aussi leur formation intellectuelle, notamment à Saint-Cyr.
Allons, entrons. Rassemblement en bas, à l'amphivauban.
Donc c'est un emploi du temps extrêmement minuté, qui est marqué par le clairon. Le clairon marque le début de la journée, marque la fin de la journée. On a aussi des inspections qui sont récurrentes, des inspections de tenue, des inspections de chambrée. Et tout cela, en fait, délibérément, laisse très peu de temps aux élèves. Ça participe aussi au fait de briser un petit peu aussi les volontés et encore une fois, faire en sorte que les élèves soient coulés dans le même moule.
Asseyez-vous, messieurs. En général, messieurs, nous commençons aujourd'hui l'étude des régions frontières du Nord et du Nord-Est.
Appréciation du général de Carpentrie, directeur des exercices militaires de Saint-Cyr, juin 1923. Hauteclocq a les plus belles qualités militaires et les a développées par un travail acharné. Remarquablement doué au point de vue intellectuel, il a réussi parfaitement en instruction générale et en instruction militaire. Par son énergie et sa persévérance, il a tiré très bon parti de dispositions médiocres pour l'équitation.
Médiocre en équitation, Philippe de Hauteclocq opte malgré tout pour la cavalerie. Et en 1923, pour sa seconde année de formation à Saint-Cyr, il intègre ce qu'on appelle l'escadron.
Ce choix de Philippe de Hauteclocq de choisir la cavalerie, il s'explique par plusieurs raisons, par goût, par imprégnation familiale et aussi par admiration pour son oncle Valéran qui est décédé pendant la Première Guerre mondiale. Et parce que Hauteclocq souhaite la cavalerie, il se surpasse pour monter à cheval, alors même qu'il n'a pas de très forte disposition pour l'équitation. Mais en tout cas, il est déterminé, il veut à tout prix la cavalerie, et donc il va se donner énormément de mal pour réussir à monter à cheval et donc pour pouvoir rejoindre la cavalerie.
L'escadron est un monde à part. Sachez que parmi les 40 élèves qui ont fait ce choix en 1923, plus de la moitié est aristocrate. Des chevaliers, donc. Une question de tradition.
Ut feminem corpore de virili dares carne principio.
La détermination de Philippe de Hauteclocq a payé. puisqu'il sort major de sa promotion. Le voilà sous-lieutenant, il a terminé ses études et il estime que le temps est venu de se marier avec une jeune femme de son rang, Mademoiselle Thérèse de Gargan.
Lettre de Philippe de Hauteclocque à sa mère, Marie-Thérèse van der Kruis, le 6 août 1925. Nous avons convenu de choisir avec Thérèse, comme règle fondamentale, une confiance inébranlable en la Providence. Cela donne à la vie une hauteur et une paix qui permet de braver n'importe quelle épreuve et de remplir quotidiennement les devoirs les plus ordinaires.
Le mariage est prononcé à la mairie de Versailles le 10 août 1925 et le jeune couple prend la direction d'Annecy pour leur voyage de noces. Que sait-on de leur vision du monde à cette époque ? L'historien Christophe Charles.
Ils sont lecteurs, d'après ce qu'on sait, de l'Action française et ils continuent de la lire, enfin en tout cas c'est ce qu'on sait par les biographes, même après la condamnation de l'Action française par le pape, ce qui est étonnant pour une famille qui par ailleurs est extrêmement attachée à la papauté et à l'Église.
Ça c'est important Christophe Charles, parce qu'en 1926, le pape va condamner l'Action française au nom de quoi ?
Eh bien parce que c'est un mouvement politique qui dit politique d'abord, c'est-à-dire qui ne met pas la religion au premier plan. On sait bien que Maurras lui-même n'était pas croyant. Donc pour des catholiques, c'est étonnant que la parole du pape ne soit pas plus importante que ce journal qui n'est pas absolument catholique sur tous les plans, et en tout cas pas fidèle complètement à la doctrine de l'Église, puisqu'il y a quand même une très forte composante raciste dans ce mouvement. Donc il y a une divergence là, que j'ai du mal à expliquer, parce que c'est vrai que ça a posé un cas de conscience à beaucoup de catholiques traditionnels, qu'on ne puisse plus lire l'Action française, et par ailleurs qu'on veuille toujours être fidèle au pape, il fallait choisir. Et là, apparemment, ils ont continué à lire ce journal, donc je pense que c'est une marque de rébellion, comme il y en a d'autres dans la vie de Philippe de Hauteclocque, qui n'est pas toujours un officier totalement obéissant à la hiérarchie. Et donc là, on voit une certaine dissidence par rapport à ce qu'aurait pu être ou dû être leur attitude s'ils avaient été entièrement fidèles à l'Église dans tous les domaines. Et je suis un peu déçu que personne de la qualité de Philippe de Hauteclocque ait pu continuer à être entiché. Bon, c'est peut-être par défaut aussi de trouver autre chose. Il y avait aucun mouvement politique, sans doute, à l'époque qui correspondait à ce qu'il avait envie de lire ou de croire. Mais c'est tout. Et je pense qu'il a trouvé dans le général de Gaulle certainement l'alternative à ce manque que l'Action française a rempli provisoirement.
Demandez l'Action française, le journal du parti royaliste, l'organe du nationalisme intégral. Demandez l'Action française.
Lettre de Philippe de Hauteclocque au lieutenant Jean Lecomte en 1934. Quant au dégoût causé par la société actuelle, il est profond, mais n'inspire pas le cafard si l'on possède une vie intérieure. Alors, on a la force et la jouissance de mépriser les capitalistes qui ne pensent qu'à l'argent ou le populo mené à la boucherie. Tu te dis avec lassitude qu'il manque une élite, une classe dirigeante. Je crois néanmoins qu'un jour ou l'autre, en guerre ou en révolution, le caractère reprendra sa valeur pour se défendre ou attaquer. On doit en tout cas admirer les lutteurs comme Maurras, encore indépendant.
Saint-Cyrien de seconde année, dans quelques jours, vous serez parti vers votre destin. Vous serez loin de Saint-Cyr. Mais vous ne l'aurez pas quitté. On ne quitte jamais Saint-Cyr. On l'emporte avec soi.
Reprenons. En 1925, ce tout jeune officier fougueux, d'obédience maurrassienne, est animé par un esprit réactionnaire, hérité de son éducation familiale. Et dans sa vision du monde, qu'il doit à sa formation saint-cyrienne, il appartient désormais à une élite faite pour commander. au moment d'entamer sa carrière militaire, il doit formuler le vœu d'une affectation. Et alors qu'on s'attend à ce que Hauteclocq choisisse le Maroc, où se termine la guerre du Rif, c'est-à-dire aller au combat, la vocation d'un officier, eh bien, il fait un choix étonnant.
Alors d'abord, il convient de rappeler que par son rang de sortie, il avait le choix. Et il choisit l'Allemagne.
Christine Lévy-Stouzé, historienne et biographe du général Leclerc.
Il choisit l'Allemagne. Alors, il faut rappeler qu'il vient de se marier à Thérèse de Gargan. Sans doute veut-il ménager pour un premier poste sa jeune épouse. Il n'y a pas de certitude. Mais c'est une année, devrions-nous dire, de transition, de poursuite de l'apprentissage de son métier d'officier.
Après cette année passée en Rhénanie, Philippe de Hauteclocq est muté à Taza en octobre 1926 au 8e régiment de Spahis marocains. D'abord, comment définir les Spahis ?
Ce sont des cavaliers de l'armée d'Afrique. Il n'est pas en opération au 8e Spahis. Il est en poste à Taza, non loin de Fès, c'est la partie nord du Maroc, pour situer les choses. Au moment où il est nommé, il continue son métier de soldat en étant formateur au sein du 8e Spahis à Taza. Il est intéressant de noter qu'avec sa jeune épouse et leur fils aîné, Henri, il loge dans la Médina, pas dans la ville européenne. C'est un indice. C'est une clé de compréhension de ce qu'est l'officier d'Hauteclocq avec son épouse. Des gens très chrétiens, mais très sobres dans leur mode d'existence. Alors, il y a tout ce qu'incarne le Maroc à l'époque. 1926, c'est la reddition d'Abdelkrim quelques mois auparavant. C'est la fin de la guerre du Rif et c'est l'évolution du protectorat. C'est poursuivre, avec l'aide de l'armée française, la pacification pour reconnaître l'autorité marocaine, c'est-à-dire le Maghzen. Et c'est dans ce cadre-là qu'il intervient.
Le Maghzen, c'est l'appareil d'État marocain.
Donc ça, c'est la première expérience au Spahis.
Armée, on joue.
Puis l'autre expérience, l'année suivante, à l'école des élèves officiers marocains de Dar El Beida, où il passe deux années scolaires très riches, très denses.
Après.
Et à l'école des élèves officiers de Dar El Beida, il transmet comme il apprend. Je m'explique. Il transmet à ses élèves officiers.
Salam Ali.
Il parle arabe.
Tu as fait bonne route ?
Allah est grand et grâce à lui, j'ai fait bonne route.
Mais il apprend aussi et la culture marocaine et la culture de l'islam.
Il s'imprègne.
Il s'imprègne. Et les élèves officiers confèrent leur témoignage, disent qu'il avait été frappé par sa connaissance des grandes figures savantes du monde musulman marocain. Donc c'est quelqu'un qui apprend et qui est séduit par le Maroc, par sa population, par sa culture. Et cette foi qu'il a, très forte, lui fait apprendre aussi beaucoup de choses sur l'islam. Il y a des images pas bien répandues et qui pourtant révèlent sa personnalité. Moi, il me plaît à répéter une photo et qui est dans les collections de famille dans le château de Tailly, prise à l'été 1929, où il reçoit à son domicile avec son épouse, les élèves officiers marocains de l'école de Dar El Beida à Meknès.
Ah oui, ça c'est quand il reçoit les officiers de Meknès.
Bénédicte Coste, petite fille du général Leclerc.
Vous savez, quand il était allé au Maroc entre 27 et 33 en gros, il avait beaucoup sympathisé avec ses élèves officiers en fait. Voilà, et il les avait invités à Tailly.
Veuillez vous rapprocher un peu du centre s'il vous plaît. Merci. Attention, ne bougeons plus. 1, 2, 3, merci.
L'été 29, ouais,
donc
ça
là,
c'est très marrant.
Ils posent devant
ils font un barbecue là.
Devant le château.
Ouais, à l'arrière du château.
Alors l'amour.
C'est peu fréquent. Il s'est attaché au Maroc, mais il s'est attaché à la culture. Il est curieux. Donc c'est quelqu'un qui peut être attachant, c'est pas la vision qu'on a. Et qui s'attache aussi au pays, aux hommes. Cet attachement au Maroc est viscéral. C'est sans doute à la fois mystique, c'est lié à sa foi. Et c'est un sentiment partagé aussi par son épouse.
Après 2 ans d'instruction à Meknès, Philippe de Hauteclocq aspire à plus d'action. Et il parvient à se faire muter au 38e goum marocain. On peut traduire goum par compagnie. Alors qui trouve-t-on dans ce 38e goum ?
Ce sont des troupes d'infanterie, ce sont des fantassins. Et là, c'est l'entrée en opération, dans une situation pas très facile, parce que c'est de la guérilla, et c'est un haut atlas, et il prend la tête d'un goum qui a été décimé. Et donc, l'objectif, c'est à la fois de rétablir la situation et de pacifier.
La France a fait ton peuple de guerriers, des paysans et des bergers. Elle vous a apporté la paix, vous avez eu confiance en elle. Elle ne permettra pas qu'on détruise son œuvre.
Par là, tu es un grand chef.
Dans cette région du Haut Atlas, demeurent quelques dissidents à l'autorité marocaine. Et la mission du lieutenant Hauteclocq consiste, avec son goum, à sécuriser la zone. Mais d'un point de vue plus personnel, l'officier français rencontre quelques soucis d'acclimatation.
À partir de la période marocaine, il connaît des difficultés avec sa santé à cause de crises de paludisme.
Alors, ces fièvres, vous êtes remonté sur votre bête, hein? Tout le monde y passe, vous savez. Moi aussi, hein?
Mais c'est un officier qui est toujours dans le dépassement de soi. Dur avec lui-même, avec une endurance physique et c'est extraordinaire. Là encore, on retrouve les qualités du chasseur, les grandes marches, les longues marches. Et cette mission est une bonne opération, une familiarisation avec un combat inhabituel.
Bien qu'affaibli par le paludisme, le 13 juillet 1930, à cheval et sabre au clair, le jeune lieutenant Philippe de Hauteclocq riposte pour la première fois aux assauts des dissidents marocains.
C'est le baptême du feu, c'est le sens de son métier de soldat. Ce pourquoi il est entré dans la carrière des armes. Parce qu'il a trouvé que ça donnait un sens à son existence. Et que, à la différence peut-être des générations d'avant, de ses oncles et de son père, ce n'est pas pour la revanche. L'Alsace et la Lorraine sont rentrées dans le bercail français. Mais c'est préserver la paix et garantir la victoire, ce qui est différent.
Après cette première expérience de combat, Hauteclocq est nommé à Rabat, dans un état-major. Mais très vite, il s'ennuie. Et il accepte, en février 1931, de rentrer en métropole pour devenir instructeur à Saint-Cyr.
Philippe.
Je suis content que tu sois là.
Philippe, tu es superbe.
Ainsi, au milieu des années 1930, le couple Hauteclocq vit à Versailles avec leurs 6 enfants. Le lieutenant est devenu capitaine et désormais, il est à la tête de l'escadron de Saint-Cyr. Une vie épanouie pour cet officier aristocrate. Mais depuis quelques mois, Philippe de Hauteclocq est tracassé par la lecture des livres de son cousin Xavier.
Xavier de Hauteclocq est le cousin germain de Philippe. Il est journaliste à Paris au début des années 1930, notamment pour l'hebdomadaire Gringoire. Et il est l'auteur de reportages au long cours dont il tire des livres sur le régime nazi.
Julien Toreille est historien.
Et la lecture des ouvrages de Xavier de Hauteclocq est importante parce que, pour Philippe, ils lui permettent d'apprendre ce qu'est réellement le régime nazi. Et c'est aussi une époque où Philippe de Hauteclocq découvre Mein Kampf en le lisant dans le texte. Et évidemment, de ces lectures de Xavier de Hauteclocq et de sa lecture de Mein Kampf, il ressort très vite convaincu des intentions autoritaires expansionnistes et racistes d'Hitler, et donc, in fine, de la nécessité de préparer la guerre contre lui, car il ne fait aucun doute, si vous voulez, pour Philippe, que l'Allemagne nazie va chercher à déclencher une guerre.
Nous sommes maintenant en 1938 et le capitaine de Autoclock est reçu major à l'École supérieure de guerre, une institution où l'on forme les futurs chefs de l'armée. Il n'a que 36 ans, un parcours sans faute. Mais quelques mois plus tard, sa vie est frappée par la marche tragique de l'histoire.
Et ils ont frappé, malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde. Le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression armée, a commencé la guerre.
Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne et aussitôt, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre au Troisième Reich. Où se trouve le capitaine de Autoclock à ce moment-là ?
Il est dans son château de Tailly, donc dans la Somme, et c'est un homme, je dirais, qui est plein de certitudes.
L'historien Géraud Létan.
Certitude professionnelle, il vient de sortir major de sa promotion à l'École supérieure de guerre, donc un avenir brillant s'ouvre à lui. Certitude militaire, celui qui a raté en tant qu'adolescent la Première Guerre mondiale voit une nouvelle guerre s'ouvrir. Certitude idéologique, puisque le pacte germano-soviétique le renforce dans sa détermination à se battre, puisque ses ennemis, les nazis comme les communistes, sont dans le même camp. Donc c'est vraiment un homme plein de certitudes qui se prépare à entrer en guerre. Cependant, c'est un homme qui est en phase de transition. Il est tout juste sorti de sa formation, il n'a pas d'unité qu'il pourrait commander, et donc on va le nommer à la 4e division d'infanterie, qui est en fait l'unité qui est levée en Picardie, basée dans l'Aisne, et donc c'est vraiment quelqu'un qui entre dans une nouvelle division à un poste d'état-major, vu qu'il est, il a désormais cette qualification en plus de l'École supérieure de guerre.
Durant la drôle de guerre, autrement dit, durant ses premiers mois de conflit, où il ne se passe pas grand-chose, le capitaine de Autoclock croit encore que l'armée française sera prête pour l'affrontement.
Lettre de Philippe de Autoclock à sa sœur Colette, le 6 mai 1940. Cet animal d'Hitler nous a bien possédés. Et il la continue, sa guerre, sans en avoir l'air. Néanmoins, chaque jour gagné constitue un bénéfice et permet de rattraper notre retard.
Quatre jours seulement, après cette lettre écrite à sa sœur Colette, les troupes allemandes se lancent à l'assaut de la France. Que devient le capitaine de Autoclock ?
Alors ce jeune capitaine suit sa division d'infanterie qui va être projetée en Belgique. Le problème, c'est que la 4e division d'infanterie arrive à Gand, en Belgique, et surprise, au lieu d'avoir les Allemands devant elle, elle les a derrière elle, puisque la percée de Sedan a été tellement rapide que cette fois-ci, les Allemands sont sur ses arrières.
C'est un déferlement de Panzer. C'est la guerre éclair.
Donc le premier fait d'arme du capitaine de Autoclock est en fait de faire reculer sa division de Gand vers Lille, et Lille dans laquelle il se retrouve totalement bloqué. Et tellement bloqué que, vu qu'il n'a pas d'homme sous ses ordres, il a une simple fonction d'état-major, il décide de partir, de quitter Lille. Mais le 31 mai 1940, donc Philippe de Autoclock, qui s'est débarrassé de son uniforme de capitaine et qui a pris des vêtements civils, se fait arrêter par des sentinelles allemandes qui vont le fouiller et découvrir sur lui un papier qu'il a bêtement laissé avec lui, qui est un mandat postal qui a pour destinataire le capitaine de Autoclock.
Hey, non mais ça c'est rien, j'ai trouvé, j'ai ramassé par terre. Je l'ai même pas lu. Non mais attendez, hey, je vous avertis, je vais gueuler moi.
Donc qu'il est démasqué. Mais face à un colonel allemand qui l'interroge, il a une autre idée. Il y a un deuxième papier dans la doublure de son manteau qui est en fait un certificat médical indiquant qu'il prend de la quinine. Et ce certificat médical, il le montre au colonel allemand en disant « Mais regardez, c'est forcément une erreur ce papier avec un nom d'officier puisque j'ai un certificat médical et je suis père de 6 enfants, je ne peux pas être mobilisé. » Et c'est ainsi qu'il arrive, par cette entourloupe si j'ose dire, à s'échapper. Il va voler une bicyclette et va commencer pour lui un périple, alors qu'il le mène dans plein d'endroits. D'abord, il va essayer, en bon officier, de retrouver un état-major, une unité, donc il se replie vers le sud. Mais d'abord, il en profite aussi pour observer l'avancée allemande, pour que, quand il arrivera à cet état-major, il puisse donner des renseignements.
Vous allez loin ?
Paris ?
Oula, c'est trop pour moi, mais je vous amène jusqu'à un gars.
Non, à vélo, j'y vais à vélo.
Le train, tout de même, c'est plus commode.
Le train est contrôlé partout. Papier, ouvrez la valise.
Ça vous embête, les contrôles ?
Il arrive à Paris, puis à Chantilly. À Chantilly, on est tellement heureux d'avoir un officier qui s'est évadé qu'on l'envoie vers le deuxième groupement cuirassé en Seine-et-Marne. Et le problème, c'est que ce deuxième groupement cuirassé, à son tour, recule. Il était sur la Marne, il passe sur la Seine, il passe quelques jours plus tard sur l'Aube et quelques heures plus tard sur Lyon. Et c'est là que ce nouvel officier d'état-major dans ce deuxième groupement cuirassé est blessé par des projectiles tirés depuis un avion allemand. Il est blessé à la tête et donc là, cette fois-ci, la première partie de l'évasion, si j'ose dire, se termine chez l'hospice des religieuses d'Avallon en Bourgogne. Philippe de Hautecloque comprend qu'il risque d'être fait prisonnier en restant alité. Par conséquent, il reprend la route, mais cette fois-ci dans une logique beaucoup plus grande de désertion. Il ne cherche pas à réintégrer une unité. Il va foncer à bicyclette encore, en envolant parfois et très souvent regrettant, on le voit dans ses écrits, de n'avoir que des vieux clous avec des pneus crevés, vers certains de chez ses cousins, en Anjou par exemple. Et puis, à la mairie d'une petite ville d'Anjou, il va se faire des faux papiers pour ensuite rejoindre le sud-ouest, où il voit une dernière fois sa femme et ses enfants qui s'étaient repliés là-bas, puisque il se trouve que le 5 juin 1940, la commune de Tailly a un hôte particulier en la personne du général Rommel et de la 7e division de Panzer. Donc sa famille a fui aussi vers le sud-ouest.
De Françaises et de Français sont sur les routes. C'est l'exode. Le pays se délite et la femme de Philippe de Hautecloque s'est enfuie vers le sud-ouest avec leurs 6 enfants. Depuis l'Anjou, où il a trouvé refuge et aussi des faux papiers au nom de François Leclerc, le jeune capitaine écrit à son épouse « Nous sommes le 27 juin 1940. »
Ma chérie, je pars pour vous retrouver avec tous les papiers en règle. Si Dieu veut, dans 4 jours, je dois être près de vous. Mais sait-on jamais, pendant ce temps, vous pouvez prendre la direction inverse et nous pouvons nous croiser sans nous voir. Courage, ma petite bien-aimée. Si nous ne nous sommes pas revus, attends-toi à rester des mois sans nouvelles, mais ne crains jamais rien. Grâce à ta foi et à tes prières, je traverserai toutes les difficultés, mettant toutes nos forces au service du pays jusqu'à la victoire finale. Je t'embrasse de toutes mes forces, avec 2 bras, en me blottissant très fort.
Et c'est en effet le 30 juin qu'un soir, alors que j'étais sûre toute la journée, j'avais été sûre que je le verrais, qu'à 9h30, j'ai entendu mes neveux qui criaient l'oncle Philippe.
Thérèse de Hautecloque, 1972.
Et en effet, c'était le général qui arrivait, le futur général, car il n'était à ce moment-là que capitaine, qui arrivait avec un gros pansement sur la tête, car il avait été blessé du côté d'Avallon, mais décidé à continuer la lutte et à rejoindre le général de Gaulle.
Combien de temps est-il resté avec vous ?
Il est resté 3 jours. Il a consenti à rester 3 jours parce qu'il y avait cette blessure qui l'avait beaucoup fatigué d'une part, d'autre part, il avait fait un très long périple à bicyclette sur une bicyclette de femme trop petite pour lui, mais qui lui avait tout de même servi de moyen de transport. Et alors il a consenti à rester 3 jours pour se reposer un peu, se substanter un tout petit peu. Et au matin du 3e jour, c'est-à-dire le 3 juillet, il est parti par les vignes à bicyclette. Nous sommes partis tous les deux pour couvrir sa fuite de façon à ce qu'on ne sache pas où il était parti.
Durant cette épopée chaotique, au cœur du mois de juin 1940, Hauteclocq a entrevu une lueur d'espoir.
Ici Londres, les Français parlent aux Français.
Sans doute, durant une de ces étapes, Philippe de Hauteclocq entend un des appels du général de Gaulle.
Giraud l'étend.
Pas celui du 18 juin, mais un de ceux qui a suivi. Et ayant désormais un point de chute avec le général de Gaulle, ayant un peu d'argent, ayant une fausse identité à peu près bien faite, il va franchir les Pyrénées, rejoindre d'abord Madrid, puis Lisbonne et enfin Londres.
Leclerc sur les ondes de la BBC le 4 août 1940. Il y a quelques jours, caché dans un village de la France envahie, j'ai pu entendre, grâce au patriotisme d'un Français, la radio française de Londres. J'ai vivement ressenti à ce moment-là l'impression de réconfort donnée par les seules voix françaises encore libres. Aussi est-ce avec une conviction profonde que je m'adresse aux Français de France, prisonniers de l'ennemi ou à ceux de l'étranger.
Rejoindre De Gaulle, Giraud l'étend, c'est désobéir, puisque nous avons signé l'armistice. En tous les cas, Philippe Pétain a fait signer l'armistice à la France. Donc, continuer le combat, c'est désobéir à l'armée française et à sa hiérarchie. Selon vous, quel ressort anime Philippe de Hauteclocq dans cette désobéissance militaire ?
La première chose à dire, peut-être, c'est que la défaite de 1940, pour lui, est une sorte de découverte du peuple. Philippe de Hauteclocq a en réalité vécu dans beaucoup d'entre-soi. L'entre-soi familial, l'entre-soi de Saint-Cyr, l'entre-soi de la bonne société versaillaise. Et là, tout à coup, durant ce périple, je dirais, il découvre que parfois des gens l'aident, des paysans, des ouvriers. Parfois, d'autres gens veulent le dénoncer. Parfois, des gens en qui il aurait pu avoir confiance ne l'aident pas. Par exemple, des prêtres. Parfois, d'autres, au contraire, vont au contraire l'aider. Donc, c'est pour lui un moment sur ce peuple qu'il connaît mal. Il ne connaît pas beaucoup de gens des catégories populaires, à part sa domesticité des paysans dans son village natal. Philippe de Hauteclocq, tout à coup, se rend compte que le peuple français n'est pas totalement abattu par la défaite. Il est certes humilié, mais il n'y a pas un abattement général, que peut-être il y a quelque chose à en tirer. Ce que ces lectures de l'action française sans doute rendaient quelque chose un peu étrange pour lui à comprendre.
Le maréchal va parler à la radio, venez vite.
Il n'aura pas perdu de temps.
Tu parles. Quelle humiliation.
Deux faits m'ont particulièrement frappé au cours de mon évasion. Le premier, c'est le nombre de Français dans tous les milieux qui furent indignés par cette capitulation sans excuse. Dans combien de maisons où je me suis réfugié n'ai-je pas entendu ces questions ? Comment a-t-on pu faire cela ? Et nos colonies ? Et la parole donnée ? Le patriotisme de certaines femmes françaises a fait en particulier mon admiration. Cette désapprobation par de nombreux Français qui ne sont pas encore mûrs pour l'esclavage, aucun journal français n'a le droit de l'exprimer. Mais il faut que le monde entier la connaisse.
C'est vraiment intéressant, Giraud l'étend, j'y ai pas pensé, mais en effet, dans cette cavale de mai-juin 1940, c'est un apprentissage. En vérité, il va croiser en effet toutes sortes de catégories sociales. C'est sans doute là qu'il aperçoit pour la première fois la France, sa diversité, dans ses complexités.
Tout à fait, c'est aussi même pour lui un apprentissage de la pauvreté. Et désormais, il doit parfois voler des vêtements civils parce qu'on ne les lui donne pas. Il est en position de mendicité. Il faut parfois faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas pour faire des faux papiers. Donc c'est lui qui était un notable passe à une condition de marginal et même de pauvre. Donc c'est vraiment aussi un choc qui commence à ce moment-là. Après, d'autres ressorts plus idéologiques, plus intimes vont se mettre en branle. Le premier, c'est la crainte du nazisme. Philippe de Hautecloque a un cousin qui a été reporter en Allemagne et donc ils ont discuté et il sait ce que représente la menace nazie sur la France. C'est sans doute pour lui l'importance de la foi chrétienne, le fait de laisser derrière lui sa femme et ses enfants, pour lui n'est pas un abandon parce que c'est on s'en remet à Dieu. Collectivement. Et il y a l'idée qu'il y a une mission avec un caractère sacré à accomplir, ce que ses proches aussi vont comprendre et vont lui donner les moyens de faire. Autre élément, c'est que dans la mentalité aristocratique de Philippe de Hautecloque, l'exil n'est pas synonyme d'opprobre total et définitive. Quand vous êtes un bon républicain, depuis la Révolution, vous combattez sur le sol de la patrie et vous ne le quittez pas tant que l'ennemi y est. Or, Philippe de Hautecloque peut avoir d'autres références. Pour lui, la question des émigrés de l'Ancien Régime n'est pas une mémoire qui a été rejetée. Donc, par conséquent, se battre en exil pour un jour revenir et restaurer une France qu'il aime n'est pas du tout étranger. Peut-être le dernier point qui facilite cette désobéissance, cette transgression, c'est en réalité l'humiliation. Comme l'essentiel de la société française en 1940, Philippe de Hautecloque est humilié. Il est d'autant plus humilié qu'il voit s'effondrer tout ce en quoi il croyait, notamment l'armée à laquelle il a voué sa vie. Il voit et il passe brutalement de la condition de fils de vainqueur à celle de vaincu. Et donc, évidemment, pour lui, c'est une sorte de grande tourmente intime qui se passe à ce moment-là.
Ébranlé dans ses certitudes, Philippe de Hautecloque débarque à Liverpool et arrive à Londres le 25 juillet 1940, où il est aussitôt reçu par le général de Gaulle.
Soyez bienvenus. Votre origine ?
Saint-Cyr et l'école de guerre, mon général. J'ai servi au Maroc et combattu avec le 2e groupement cuirassé. Dès que j'ai eu connaissance de votre appel, j'ai aussitôt entrepris ce qu'il fallait pour vous rejoindre.
Me présentant ensuite au général de Gaulle et aux Français qui l'entourent, j'ai eu la joie de voir que tous, militaires et civils, ne poursuivent qu'un but, la lutte. Ce ne sont certes pas des réfugiés que j'ai trouvés, mais bien des combattants. Soyez rassurés, la France possède encore des défenseurs.
Mais quand débute l'été 1940, Charles de Gaulle ne pèse rien. Dans quelle situation est-il exactement ?
La situation d'un homme qui est tout seul, ou qui est presque tout seul.
Guillaume Piketty est historien.
Un homme qui a été peu entendu, voire même très très peu entendu, et qui est rejoint de loin en loin par certaines personnalités, certains individus qui se disent que plutôt que de combattre dans les rangs alliés, autant se rallier à ce général inconnu, mais qui est français.
Alors il est presque tout seul, mais quels sont ses objectifs ?
Les objectifs sont simples, en tout cas tels qu'il les décrit au départ, c'est attirer à lui, rassembler autour de lui celles et ceux qui refusent la défaite de la France, et de facto, davantage celles et ceux qui souhaitent combattre hors de France pour, s'ils survivent, revenir victorieux que celles et ceux qui ont choisi de continuer à combattre, mais sur le sol métropolitain.
Et alors, quel moyen a-t-il pour y parvenir ?
La voix.
Monsieur Churchill, vous connaissez la puissance des mots, la force du verbe. Les mots, ce sont les seules armes qui me restent.
La voix, le pouvoir de conviction, sachant de surcroît que dans les premiers mois au moins, le gouvernement britannique, dirigé par Winston Churchill, accepte de le soutenir, même de reconnaître sa démarche, mais chacun, chacune connaît les mots de Churchill le 27 ou le 28 juin 1940.
You are alone. And I recognize you alone.
Vous êtes tout seul, alors je vous reconnais tout seul. En d'autres termes, bon, bah, je n'ai que vous, c'est donc vous que je prends. Voilà.
L'honneur. Le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat.
Ces deux hommes, Hautecloque et De Gaulle, qu'ont-ils en commun quand débute ce pari inouï de la France libre ? Christophe Charles.
Bah, ils ont en gros les mêmes valeurs. Hein. Tous les deux sont évidemment extrêmement patriotes et attachés à la grandeur de la France. Tous les deux vont vouloir exceller sur le plan intellectuel et sur le plan de leur carrière. Hein. Et puis, il y a évidemment cette idée de la France comme quelque chose de supérieur à tout et d'une vocation particulière de la France. Bien sûr, chaque pays pense ça, mais enfin, chez eux, c'est vraiment un acte de foi total, et il faut tout sacrifier à cet acte de foi, et il n'est pas question d'abandonner la France dans les circonstances les plus dramatiques. Donc là, de ce point de vue-là, pourquoi Philippe de Hauteclocque va choisir tout de suite de suivre l'appel du 18 juin, on voit qu'il y avait déjà une préparation dans la vision même du monde qui convergeait avec celle qui était celle de De Gaulle, et que De Gaulle a exprimé à la fois évidemment à plus tard dans ses mémoires, mais déjà même dans les premiers écrits qu'il a publiés dans l'entre-deux-guerres, et que, on le sait, Philippe de Hauteclocque va lire. Mais évidemment, ça suppose un sacrifice énorme, puisqu'il ne peut pas partir avec sa famille. Hein. On ne va pas emmener ses 6 enfants et sa femme dans une aventure comme cela, puisqu'il s'agit vraiment d'une aventure militaire pour lui. Il s'agit de reprendre la guerre. Donc, il y a aussi une décision très douloureuse d'abandonner sa famille. Et pour quelqu'un qui a une très profonde attachement aux valeurs familiales, c'est très difficile. Mais enfin, il rencontre chez sa femme une compréhension totale qui prouve bien cet accord très profond sur leurs valeurs. Et elle dit, vas-y, il faut que tu obéisses à ton devoir. Moi, je m'occupe des enfants et du reste. Donc, c'est pas évident de faire ce type de choix quand on a 6 enfants et une femme.
Et pour protéger sa famille des représailles, suite à son choix de la désobéissance et de l'exil, Philippe de Hauteclocque s'est choisi un nouveau nom. Il s'appelle désormais Leclerc. Un patronyme très répandu dans sa Picardie natale, et donc difficile à démasquer. Que dire d'autre sur cette nouvelle identité ?
On reprend la guerre, donc on change de nom, on recrée une nouvelle armée, on devient un autre homme, et on change de nom. Donc c'est une nouvelle identité. Et puis en même temps, je pense que, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais Leclerc, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'engage totalement. Hein. Leclerc dans l'Église, c'est celui qui a la vocation de servir l'Église. Donc là, c'est Leclerc dans l'armée, enfin dans la nouvelle armée qui va se reconstruire. Donc c'est une vocation totale, d'un engagement total jusqu'à la victoire. Et on sait très bien qu'il y aura un épisode célèbre, le serment de Couffrat, où donc on prête serment qu'on va aller jusqu'au bout, jusqu'à Strasbourg. Et donc il s'agit vraiment d'une croisade. C'est comme ceux qui partaient à la croisade avec une nouvelle identité. Ils allaient délivrer le tombeau du Christ. Donc là, il s'agit de délivrer la France qui est tombée sous les mains de mauvaises forces. Il change de nom, mais en fait, il retrouve son identité ancestrale de croisé, qui était celle de sa famille, finalement.
En conclusion de ce deuxième épisode, ayez en tête qu'après la Première Guerre mondiale, Philippe de Hauteclocque a suivi le chemin tracé par la tradition et le patriotisme. Il est devenu un officier saint-cyrien pur jus.
On ne quitte jamais Saint-Cyr. On l'emporte avec soi.
Mais les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale ont bouleversé sa vision du monde. Pris au piège de la débâcle, il rencontre une société française bien plus complexe qu'il ne l'avait pensé.
Je voudrais servir la France, par n'importe quel moyen.
Et refusant d'obéir aux ordres du maréchal Pétain, Leclerc se rallie au panache du général de Gaulle.
Le crime de l'armistice, c'est d'avoir capitulé, comme si la France n'avait pas l'Empire. Il reste à la France de très importants atouts dans cette lutte où se joue son destin.
Comment l'Afrique a offert à Philippe de Hauteclocque son entrée dans l'histoire, c'est l'horizon du prochain épisode. La cavale du général Leclerc, un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Anne Kessler et Laurent Stocker, sociétaire de la Comédie-Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Léonie Ferré. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Prochain épisode, le serment de Koufra. La cavale du général Leclerc est un podcast original de France Inter.